Prize in Literature for 2019 is awarded to the Austrian author Peter Handke for an influential work that with linguistic ingenuity has explored the periphery and the specificity of human experience.
Grand entretien jusqu'à 13h30 avec le prix Nobel de littérature 2019, Peter Handke, l'auteur d'une cinquantaine de romans et pièces de théâtre, écrit en allemand, traduit en français, parfois par lui-même, a aussi publié une vingtaine d'essais, réflexions à partir de ces petites choses du quotidien qui l'interpellent et dont il fait fonction universelle, comme son essai sur le foot des champignons ou celui sur le lieu tranquille ou encore sur la fatigue, le jukebox et la journée réussie. En parallèle, des récits de voyage et d'autres plus politiques comme un regard hivernal vers le Danube, la Save, la Morava et la Drina, sorti en 1996, ou son essai sur le procès de Milosevic autour du Grand Tribunal, publié en 2003, où il interroge la place de chacun, celle du juge et aussi de l'écrivain. Existe-t-il plus suspect qu'un écrivain, écrit-il, est-il encore concevable de nos jours qu'un écrivain puisse témoigner? La remise de son Nobel de littérature en décembre dernier a en tout cas ravivé la polémique sur ses positions pro-serbes pendant la guerre des Balkans. Celui qui nous disait à l'instant que les opinions n'ont pas le droit de citer dans sa littérature, dit aujourd'hui à l'inverse avoir tout dit dans ses livres. Alors quel monde habite Peter Handke? Suite de notre discussion qui s'est tenue chez lui jeudi dernier autour de la littérature, de ses influences et de ses engagements à l'occasion de la parution chez Gallimard des Innocents, moi et l'inconnu au bord de la route, départementale. Une pièce mise en scène au Théâtre de la Colline à Paris par le metteur en scène Alain Françon. Ça débute le 3 mars, ça a lieu à Paris jusqu'au 29 mars, avant Grenoble le 2 avril. Peter Handke nous en lit un extrait, extrait de la déclaration de moi à l'inconnu qui est parti.
Toute ma vie inconnue, j'ai agi en m'imaginant ton regard sur moi. Toi absente et en même temps perpétuellement s'approchant, était ma loi. Avec toi, j'aurais oublié mon mal du pays et maintenant, mon heure est venue, mais d'une toute autre manière que rêvée. Et maintenant, tu me quittes. Ça consiste en quoi maintenant, ta loi inconnue? Qu'est-ce qu'elle devient, notre route sans tes yeux rivés sur moi? Suis-je définitivement un desperado? Déjà tu me manques inconnu, des pieds jusqu'à ma tête.
Vous trouvez que c'est bien écrit?
Ouf, c'est bien écrit, c'est chiant et bien écrit. Aujourd'hui je suis contre le style moi, ouais. Je suis pas de style.
Peter Handke, vous l'avez déjà raconté que vous avez commencé à lire beaucoup dès l'internat, que
ouais,
ces livres déjà, vous ont aussi aidé à habiter cet univers et ce monde, que vous avez transformé l'ennui par les livres avec tout plein d'auteurs qu'on retrouve d'ailleurs. Il y a des vieux compagnons qui font des apparitions sur cette départementale, Bernanos, Shakespeare, Tolstoï, d'ailleurs il est là sur votre table.
Oui, oui.
C'est vous qui l'avez sculpté?
Ah non, je trouvais à Versailles dans une...
Dans une échoppe?
On t'est quitté, là, je ne sais pas. Mais c'est bien, c'est un sculpteur juif qui a vu Tolstoï. C'était authentique, c'était en 1904. Et un sculpteur juif, et Tolstoï était modèle pour lui, il y a peut-être une vingtaine de moulures. Mm-hmm. Et j'ai trouvé par hasard, c'était pas si cher, non. Mais il est là. Il n'est pas vraiment ami, mais il est là. La tête est Tolstoï ici.
Alors, il est là en statuette, mais il est aussi là en livre, partout dans votre salon.
Oui, j'ai découvert Tolstoï d'une autre manière. Il est beaucoup, beaucoup plus contradictoire que, par exemple, de la littérature de Dostoïevski. C'est toujours le même rythme, très grandiose. Mais Tolstoï, il est contradictoire. Il me convient, soi-disant, mieux comme vieux frère que Dostoïevski. Maintenant, j'ai découvert comme ça. J'ai lu Résurrection, je crois, ça s'appelle en français. C'est un livre complètement contradictoire. On sent la culpabilité de l'auteur aussi. La culpabilité aussi, l'état criminel, soi-disant, de l'auteur qu'il a commis une grande faute, pas mal de grandes fautes dans sa jeunesse, mais peut-être pas seulement dans sa jeunesse. On sent quelque chose comme ça, qui me crée une espèce de domicile pour l'écrire. Mm-hmm. Pas, plus que, en tout cas, que Dostoïevski. Plus que Tchekhov, qui sont incomparables, les deux, ça c'est clair, oui. Mais c'était la grande époque de la littérature épique. C'était vraiment le 19e siècle en Russie.
Et Goethe, est-ce qu'on peut dire un mot de Goethe?
Oh, pas seulement un mot, mais arrêtez, si je commence.
Est-ce que vous voulez écouter ce qu'en dit Jeanne Moreau?
Ce qui se passe d'exceptionnel pour moi avec Goethe, dont j'ai lu Werther, je devais avoir 16 ou 17 ans, c'est le bon âge pour lire Werther, c'est que les biographies que j'ai pu lire ne laissent pas, à la fin, un goût de cendre. J'ai l'impression que c'est un homme dont la vie a été bien remplie. Je n'ai pas l'impression de dégradation. Pour moi, c'est un homme universel. C'est un homme qui s'est intéressé à tout, dont la curiosité est immense et dont la vie n'a jamais été prête à basculer dans le pessimisme ou la négation. Je ne veux pas dire par là qu'il n'a pas souffert, mais qu'il a assumé la souffrance et qu'il en a fait quelque chose. J'ai l'impression qu'il a fait quelque chose de tout.
Il était un bébé aussi toute sa vie. Hein. Mais je me rappelle une histoire qu'à Weimar, il était déjà un grand ministre chez le duc de Weimar. Et il y avait Schiller aussi, là, qui était vraiment comme dramaturge, soi-disant parfait, non? Mais Goethe, il n'était jamais parfait. Il n'y a jamais aucune forme qu'il a remplie comme beaucoup d'écrivains peuvent. Et Schiller, c'était le héros de remplir et vivifier et électrifier, même s'il n'y avait pas d'électricité à l'époque. La forme du drame, Schiller n'a pas écrit des romans. Un fragment seulement, il est mort. Mais Goethe, il ne voulait pas faire des fragments comme des romantiques. Après lui, c'était l'idéologie des fragments comme Novalis, c'était Eichendorff, c'était pas des fragments, mais c'était comme une idéologie, on peut pas faire la totalité. Mais Goethe a essayé, mais il n'a jamais, même les Faust, il n'a pas, heureusement, il n'a pas réussi. Il y a cette histoire où le ministre Goethe et Schiller, qui étaient, il avait l'air d'un général, ils étaient là, ils ont fêté quelque chose. Et Schiller, en buvant du vin, il est devenu beaucoup plus idéologique, il est devenu théoricien à la Kant, la philosophie. Et Goethe, il est devenu complètement comme un enfant, comme un danseur. Il était quand même un grand ministre, c'était la grande figure de la littérature européenne. Mais il est devenu un... je ne sais pas... Là, je suis avec lui, là. Quand il a perdu son fils, il a perdu sa femme, son fils Auguste, il l'a perdu. Quand il a appris, là, c'est ce que Jean-Maurice dit très bien, il a appris la mort de son fils. Tout ce qu'il a dit, je savais que je générais un mortel. Et là, il n'aurait plus rien parlé. Et après, il était avec les enfants de son fils. Il était très vieux déjà, juste avant sa mort. Il était sur un banc au soleil, et là, quand il regarde les enfants jouer au soleil, il dit seulement, je ne sais pas, j'ai l'impression de sentir sa voix de Goethe quand il dit, ach, ach ja. Ah, ça, c'est ça, mais... Oui.
Quand vous avez reçu votre prix Nobel de littérature, Peter Handke, vous avez cité les mots du poète suédois Thomas Tranströmer.
Oui, oui.
N'aie pas honte d'être un homme, sois-en fier, car en toi une voûte s'ouvre sur une voûte jusqu'à l'infini. Jamais tu ne seras parfait. Là revient cette idée de la perfection.
Ah oui, c'est vrai. Ouais.
Jamais tu ne seras parfait, et c'est très bien ainsi.
Ouais. Mais c'est comme l'art, et c'est très bizarre, je dévie un peu. Mais c'est une poésie. C'est modeste et immense en même temps. Comme les voûtes dans les églises romanes, non? Ça parle à l'être humain d'aujourd'hui, pas seulement d'aujourd'hui, à mon âme en tout cas, beaucoup plus profondément que le gothique. C'est déjà idiot que j'ai fait des comparaisons.
Vous êtes-vous dans une quête de perfection quand même aussi ou pas?
Ah non. Non, ça n'existe pas.
Quoi, c'est un gros mot, perfection?
Non, ça n'existait pas. Non. Ça, la perfection ne touche pas. La perfection ne blesse. Il faut que la littérature blesse aussi, mais d'une manière que le ciel change de la couleur. La perfection, c'est un peu une tentation française, mais Pascal n'avait pas ça. Pascal n'avait pas cette tentation de la perfection. Il y a pas mal d'écrivains comme Claudel qui sont magnifiques, qui sont pas des héros, mais presque des géants. Mais j'aime pas les génies non plus. Mais chaque littérature a quelque chose dans sa langue, dans le rythme du français, de l'espagnol. Parfois, je me sens avec l'âge plus proche aux poètes comme Antonio Machado, l'espagnol, aussi à Cervantes, bien sûr, aussi au Juan de la Cruz, Saint-Jean de la Croix, la poésie, c'est une plus belle et plus chose, et plus infantine aussi. L'écrivain, on voit l'enfant dans... Moi je ne vais pas faire une idéologie de ça.
Come gather around, people, wherever you roam, and admit that the waters around you have grown, and accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone, or the times they are a-changing. Writers and critics who prophesize with your pen, and keep your eyes wide, the chance won't come again. And don't speak too soon, for the wheel's still in spin, and there's no telling who that it's naming. For the loser now will be later to win, for the times they are a-changing. Senators, congressmen, please heed the call. Don't stand in the doorway, don't block up the hall. For he that gets hurt will be he who has stalled. The battle outside raging will soon shake your windows and rattle your walls. For the times they are a-changing. Mothers and fathers throughout the land, and don't criticize what you can't understand. Your sons and your daughters are beyond your command. Your old road is rapidly aging. Please get out of the new one if you can't lend your hand. Oh, the times they are a-changing. It is drawn, the curse it is cast. The slow one now will later be fast, as the present now will later be past. The order is rapidly fading, and the first one now will later be last. For the times they are a-changing.
Un clin d'œil à l'homme du jukebox avec ce Bob Dylan, The Times They Are Changing, sorti en 1964. Sa parole est rare, il nous a reçus jeudi chez lui, en région parisienne. Jusqu'à 13h30, l'écrivain Peter Handke est notre invité. Le prix Nobel de littérature 2019 lui a été décerné à l'automne dernier. Si tout le monde reconnaît la valeur de son œuvre immense, certains estiment qu'il n'aurait pas fallu honorer l'homme. Ce qu'on lui reproche, ses positions proserbes pendant les guerres d'ex-Yougoslavie et sa présence aux funérailles de Slobodan Milosevic, l'ancien homme fort de Belgrade, inculpé pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité et génocide devant le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie. Un sujet sur lequel Peter Handke s'est d'abord beaucoup exprimé et sur lequel il refuse aujourd'hui de se prononcer à nouveau, et ce depuis plusieurs années, préférant laisser parler ses livres. Pourtant, l'envie de comprendre reste, comprendre surtout d'où il vient, ce qu'il guide. D'origine slovène par sa mère, allemande par son père, Peter Handke est né en 1942. Visages familiers et paysages de son enfance se déploient dans ses livres, dès Les Frelons pour son premier livre, Au Recommencement, paru en 1989, mais aussi dans Le Malheur indifférent et Histoire d'enfant. Dans Les ailes du désir, l'ange joué par Bruno Ganz dit « Ce que je vois, entends et sens, n'est-ce pas l'apparence d'un monde devant le monde ?» France Culture, il est 13h11.
France Culture, la grande table, Olivia Jesbert.
Est-ce que vous, Peter Handke, vous l'avez encore souvent, ce mal du pays?
Oui, mais c'est devenu... Il n'y a pas de pays que je pourrais nommer. Il n'y a plus rien à faire. Hein. Mais ça ne compte pas, c'est lâche. Non, il n'y a plus de désir non plus. Bah, quand même. De rendre compte de l'existence, oui. Le mal des pays, c'est plutôt une envie de continuer. Continuer. De faire une nuance qu'on n'a jamais sentie dans l'écriture. De continuer. Mais c'est normal. D'être surpris par moi-même, bien sûr, de donner quelque chose. Je reviens vers Henrik Ibsen, qui avait mon âge. Il était assez célébré comme écrivain, beaucoup. Il a dit, j'ai encore quelques flèches dans mon arc. Et quelques mois après, il était mort. Hein. Alors, il ne faut pas parler comme ça. Non. Je dis, j'ai envie de donner. Et ce n'est pas la première fois que je dis ça. Oui, avec des bons accents qui contournent l'existence.
Pour trouver ce quelque chose en vous que vous avez envie de sortir, vous n'êtes pas toujours dans un éternel recommencement. C'est le titre d'un de vos livres. Est-ce que ce pays qui vous manque, ce n'est pas l'enfance?
Non. Non, j'ai envie de le faire. Réaliser, comme dirait Cézanne. Réaliser. Mais la réalisation d'un tableau, c'est tout à fait une autre chose. On ne peut pas du tout comparer la peinture à la littérature. On ne peut pas du tout comparer la musique à la littérature. La littérature, ce n'est pas peinture. La littérature, c'est la littérature. Il ne faut pas faire du jazz avec les langages. Il ne faut pas pour faire du blues. Mais ça peut arriver par moments. Il y a des moments où ça rappelle quelque chose d'un Mississippi blues ou quelque chose d'une balade d'un grand chanteur, Otis Redding ou Bob Dylan ou Leonard Cohen, je ne sais pas. Mais il faut pas faire la musique avec la littérature.
Mais il y a quand même, et on va y aller sur cette question, il y a quand même aussi une place de l'écrivain dans le monde. Et vous avez cherché la vôtre aussi à travers vos voyages, à travers vos livres. Est-ce que la littérature ou la place de l'écrivain, elle est aussi dans l'engagement?
Non. L'engagement, c'est la passion de raconter ou de développer un problème par un drame. Parfois, ça m'est quand même arrivé d'écrire, sans vouloir écrire une poésie courte qui est comme deux, trois souffles, sans que ça ressemble à un haïku, bien sûr. On ne peut pas faire exprès pour faire des haïkus. Je ne suis pas du tout un poète, mais je suis engagé pour comme vivre avec les autres, comme ouvrir, m'ouvrir moi, surtout, vers les autres. Grâce au langage, aux phrases, aux paragraphes aussi.
Vous avez parlé de l'enfance tout à l'heure de Goethe. C'est aussi les mots que votre traducteur et ami, Georges-Arthur Goldschmidt, a à votre sujet. Il parle de votre regard enfantin.
Hans, que je l'ai... lui aussi est un enfant. C'est quelqu'un dont le regard est tout à fait le mien. La manière de poser le regard sur le dehors est le même. Et il y a aussi chez lui cette espèce de puissance du regard enfantin. Ça m'a beaucoup fasciné et c'est pour ça que j'ai traduit énormément de livres de lui avec un plaisir renouvelé. Mais c'est certainement l'un de ceux qui ont le plus modifié notre relation à la perception. La perception toute simple, bergsonienne, ça. Les choses utilitaires qu'on peut aussi voir, la lampe qui est là est aussi une surface noire avec quelque chose de clair en dessous. On peut aussi voir les objets hors de leur utilisation. Et c'est ça qui l'a passionné, cette espèce de vision qui serait non utilitaire. Il est profondément bergsonien d'une certaine manière. C'est très curieux d'ailleurs. Là.
Il disait encore même la semaine dernière... à propos de vos engagements, plus politiques cette fois, sur la Yougoslavie, que vous avez un regard très enfantin sur tout ça et que vous n'avez pas envie de mettre ça...
Je connais ça. On parle deux heures des choses et à la fin, l'engagement commence.
Quand on ça allait être la fin.
Quand on devient fatigué. Hein. Non, je connais le système là, journalistique. Là.
Mais on peut...
Non, je n'ai rien dans l'enfant. Quand même, c'est pas à moi de me définir. Hein. Que les autres me définissent, c'est leur droit. Pourquoi pas? Mais ça fait partie de la communication. J'ai aucune opinion, aucune position. Il y a un livre de Jane Austen. On pose la question à une jeune héroïne, peut-être, qui a 18 ans. Et toi, qu'est-ce que tu as comme opinion? Et elle est tellement effrayée, l'héroïne, elle dit « Quoi ?» Mon opinion, elle était morte. Elle parle plus. Elle dit plus rien. Ça, c'est ma position.
Pourquoi vous laissez les autres en parler à votre place? Et en même temps, ça vous agace quand ils en parlent à votre
place?
Il n'y
a rien à expliquer. Mais parlez-vous, mais moi, je n'ai rien à dire.
Vous avez dit que c'est un sujet, la Yougoslavie, dont vous n'aimez pas parler parce qu'il vous tient beaucoup à cœur. Pourquoi ce sujet vous a toujours tenu à cœur? Vous auriez pu choisir, non, comme un Modiano, comme un autre, de rester en dehors de ces sujets-là, de ne pas être un écrivain qui s'engage aussi dans son époque. Mais vous y êtes allé. Ce rêve yougoslave, il était quoi? C'était quoi pour vous?
J'ai déjà tout dit. J'ai rien ajouté.
Vous l'avez dit dans vos livres?
Par exemple, oui. Mais ce n'est pas traduit. Non. Vous n'avez pas traduit en français. Sauf les voyages hivernales. Il y a d'autres choses qui ont paru un peu clandestinement. On ne connaît pas. Alors, je n'ai pas envie de parler. Traduisez, mais ce que j'ai écrit. Il n'y a aucun mot qui... Je n'ai pas du tout à me défendre, à m'expliquer. Ça mène nulle part. Ça va rien changer. Rien. Tout est cimenté. Je pourrais pleurer, je pourrais rire, je pourrais chanter, je pourrais écrire un récit, mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ça mène nulle part de parler de ça. Nulle part. Je pourrais écrire la guimbarde, par exemple. Mais ça mène nulle part.
Dans Voyage au pays sonore, vous dites qu'il y a un art de la question, mais qu'il est toujours préférable de poser une mauvaise question que de ne pas questionner du tout. Moi, j'aimerais savoir quelle est cette question qui vous hante depuis 60 ans. Qu'est-ce qui vous traverse? Quelle est cette question qui est le fil conducteur de tous vos livres, de votre parcours?
C'est donc Perceval, des chrétiens de Troyes, c'est ça qui m'ont mis en route pour ma prose. L'épopée médiévaux, comment dire. mais touche encore plus que, par exemple, l'Odyssée de Homère ou l'Iliade de Homère. C'est une liberté qui était perdue avec les romans du baroque, avec les romans du 19e siècle, qui sont des œuvres magnifiques. Mais il y avait une liberté dans les épopées, une liberté vraiment enfantine, pour revenir au mot d'enfant, qui est devenue une espèce de mon idéal. Aussi, idéal, c'est comme illusion. Un idéal, c'est matériel aussi. Il n'y a rien de plus dangereux et plus beau aussi que comme matériel que l'idéal. Mais c'est dangereux aussi. Mais pour la littérature, il faut des idéaux. Idéaux aussi. Oui. Idéal et idiot. Oui.
Als das Kind war, war das die Zeit der folgenden Fragen. Warum bin ich ich und warum nicht du? Warum bin ich hier und warum nicht dort? Wann begann die Zeit und wo endet der Raum? Ist das Leben unter der Sonne nicht bloß ein Traum? Ist, was ich sehe und höre und rieche, nicht bloß der Schein einer Welt vor der Welt? Gibt es tatsächlich das Böse und Leute, die wirklich die Bösen sind? Wie kann es sein, dass ich der Ich bin, bevor ich wurde, nicht wahr? Und dass einmal ich, der Ich bin, nicht mehr der Ich bin, sein werde?
Des épopées sans guerre, des drames sans intrigue, ça c'est aussi cette idée de rêver l'impossible, comme Goethe. Homère, oui, que vous venez de citer, c'est le nom aussi de votre vieux poète dans Les ailes du désir, scénario que vous avez écrit, film réalisé et sorti en 87 par Wim Wenders. Et il dit, Homère, « Mes héros ne sont plus les guerriers et les rois, mais les choses de la paix, toutes égales les unes aux autres ». Je voulais savoir, Peter Handke, ce que ça signifie la paix pour vous, pour un enfant de la guerre.
Aujourd'hui, la paix. C'est une paix aujourd'hui assez bizarre, non? On parle parfois d'une façon de parler en allemand, on dit la paix pourrie. Il n'y a pas d'état de plus souhaitable que la paix. Mais la paix d'aujourd'hui qui existe, ce n'est pas la paix. Alors la paix est devenue dramatique, oui. On peut sentir quelqu'un qui, avec cette paix pourrie parfois, qu'on peut sentir aujourd'hui. Parfois, pas moment. Mais comme essence, ça existe quand même. C'est la plus grande valeur de l'histoire, c'est la paix. Mais par moment, on peut comprendre quelqu'un qui est la victime d'une paix pourrie qui dit « Ah, j'aimerais bien qu'il y ait la guerre ». On peut sentir en tout cas la détresse. Mais c'est ça le drame d'aujourd'hui, je crois. Il y a beaucoup de haine dans la paix d'aujourd'hui. Il y a une haine que je n'ai jamais sentie comme jeune dans la société. Je ne parle pas de dégoût, mais je parle de la haine.
Et cette haine, c'est ce dialogue impossible, c'est cette incommunicabilité. C'est ce dialogue qu'on sabote en permanence, c'est ça? Il n'y a plus d'échange pour vous aujourd'hui? On ne trouve plus les mots de l'échange?
Oh non, je trouve, oui. Sans échange quotidien, ce n'est pas la vie. Ça existe. J'ai vraiment le bonheur de vivre ça tous les jours. Un moment, même si seulement un moment, c'est échange entre inconnus. C'est ça un grand... Je suis un type gâté. C'est un grand, grand, grand cadeau que j'ai eu grâce à ce que j'ai fait, à la littérature, à ce que j'ai réalisé, soi-disant.
Peter Handke, dans la leçon de la Sainte Victoire, vous avez... Vous racontez cette époque où vous étiez en voyage aux États-Unis et en écrivant cette histoire de l'homme aux bras croisés, vous écrivez « Bien qu'une phrase du philosophe ne cessa de me préoccuper, en déraciner d'autres est le pire des crimes, se déraciner soi-même, la conquête la plus haute. »
Oui, c'est Simone Weil qui a écrit ça. Est-ce pas, que... pas la, la ministre, mais la, la philosophe.
La philosophe.
Oui, c'est ça. Déraciner l'autre, c'est le pire des crimes, mais déraciner de soi-même, ça, c'est un exploit.
Est-ce qu'aujourd'hui, vous estimez être parvenu à vous déraciner?
Il y a quand même des racines d'air aussi, des racines du vent, je ne sais pas. Non, je ne suis pas... En Autriche, par exemple, on parle sans arrêt des racines, il n'y a pas des racines. Et je trouve ça détestable, c'est comme devenu une, comme la pire des parties qui parle des racines. Mais déraciner l'autre, oui, c'est ce que les nazis ont fait. Ça c'est un crime qui va toujours exister. Mais moi, non, je n'ai pas de racines. Ou peut-être, je ne sais pas, peut-être j'ai des racines. Un moment qui arrive, et après, les racines disparaissent, l'autre racine revient, chaque jour, une autre racine, peut-être. Ils n'ont pas d'étoffe, pas de matière qu'on peut décrire. Pour moi, les racines, c'est l'autre, c'est l'autre. C'est le vis-à-vis de l'autre être humain. C'est la bonté de l'autre. Mais on ne peut pas compter dessus. Il faut mériter. Il faut le mériter, l'autre. Comme dit Goethe, ça définit bien la poésie, l'écrivain. Den edlen Seelen vorzufühlen ist wünschenswertester Beruf. Pressentir les âmes nobles, c'est la profession la plus souhaitable. Et ça, c'est ce que je fais. Den edlen Seelen vorzufühlen ist wünschenswertester Beruf. Ça, c'est l'écrivain. Goethe, Johann Wolfgang von.
Merci beaucoup, Peter Handke. Jukebox aujourd'hui, Stenchen en ré mineur de Franz Schubert par Lise de la Salle au piano. Précédemment, c'était Bob Dylan et des musiques extraites du spectacle de la pièce Les Innocents, Moi et l'Inconnu au bord de la route départementale. Un texte de Peter Handke qui vient de paraître chez Gallimard, mise en scène par Alain Françon. La pièce qui se jouera à partir de demain jusqu'à la fin mars au Théâtre de la Colline à Paris avant une tournée dans toute la France. Un grand merci à Peter Handke de nous avoir accordé cet entretien, à Sophie Semain et à Henri Leblanc pour leur entremise. Merci à Sophie Marty pour son aide très précieuse. Merci enfin à Nicolas Mathias pour sa prise de son, à Ludovic Auger qui était aux manettes aujourd'hui et à Gilles Blanchard pour sa réalisation. Rendez-vous demain avec la romancière Leïla Slimani pour une nouvelle grande table. Bel après-midi à tous sur France Culture.